I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce 9e numéro, on est en compagnie de Laura, Nico et Guy Le Polarski. Salut à vous.
Salut.
Salut.
Élections, donc épisode 9, avec au programme notre dossier du jour consacré à l'inclusion des personnes en situation de handicap. On retrouvera également Guy qui nous a préparé une nouvelle chronique aux urnes citoyens avec pour thème l'abstention. Mais tout d'abord, Laura, tu nous proposes un point sur le conseil municipal.
Et oui Boris, alors le conseil municipal, hein, c'est l'assemblée des élus représentant les habitants de la commune. Il est chargé de la gestion de celui-ci et adopte des délibérations. Le conseil municipal est composé du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux, à la fois de la majorité et de l'opposition. Il a pour obligation de se réunir au moins 4 fois par an, soit une fois par trimestre.
Gérer la commune et adopter des délibérations, c'est bien, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Et bien, parmi ses attributions, le conseil municipal émet des vœux sur tous les sujets d'intérêt local, la vie municipale, l'urbanisme, l'emploi local, vote le budget, approuve le budget exécuté. Il est compétent pour créer des services publics municipaux, notamment des écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public, après avis du représentant de l'État dans le département, bien sûr. Élabore et actualise le plan local d'urbanisme, le PLU, PLU, sous réserve de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale. Il élit les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. C'est un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus fragiles, personnes handicapées, pauvres ou exclues. Le conseil municipal peut déléguer certaines de ses attributions au maire.
Et comment ça se passe ? Un conseil municipal.
L'ordre du jour est fixé par le maire en amont du conseil municipal. Il doit être communiqué avant le début de la séance. Le maire ou ses adjoints habilités en cas d'empêchement doit obligatoirement envoyer aux membres du conseil une convocation préalable, écrite et signée par lui. À Arras, le conseil municipal est ouvert au public et c'est généralement le cas ailleurs. Quelques exceptions peuvent être faites si l'Assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de police des séances, notamment en cas d'agitation et restreint l'accès du public au débat. À noter que le public ne participe pas aux échanges et qu'il ne peut pas proposer de projet ni d'idées à ce moment-là, l'ordre du jour étant déjà établi. Pendant celui-ci, les conseillers municipaux échangent donc sur les propositions à l'ordre du jour. Ils votent pour adopter, s'abstenir ou ne pas adopter ces propositions. Cela donne d'ailleurs parfois des débats houleux entre les conseillers de la majorité et de l'opposition. En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des ministres. La dissolution peut être contrôlée par le juge administratif. Le conseil municipal peut être provisoirement suspendu en cas d'urgence par arrêté motivé du préfet, et ce pour une durée qui ne peut dépasser un mois.
Et suite aux élections, ça se passe comment ?
Eh bien, le premier conseil municipal post-élection se réunit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant l'élection. Le prochain conseil municipal aura donc lieu entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars, sauf s'il n'y a qu'un seul tour organisé. Si tel est le cas, le conseil se réunira au plus tôt le 20 mars et au plus tard le 22 mars. Lors de cette première réunion, le conseil municipal élit le maire et ses adjoints. Dans les communes de 1000 habitants et plus, un règlement intérieur qui précise les mesures légales de préparation des séances du conseil municipal est adopté dans les 6 mois suivant l'élection.
Tu nous donnes plus d'infos sur le conseil municipal à Arras avant de terminer ?
Oui, le dernier conseil municipal a eu lieu ce lundi 9 février. Le dernier avant les prochaines élections et donc l'élection d'un nouveau conseil municipal. On a pu y assister à quelques joutes verbales, hein, devenues un classique de celui-ci. Catherine Génisson a d'ailleurs plutôt bien résumé la chose, je la cite. « Je ne pensais pas que notre conseil municipal se transformerait en réunion politique d'avant municipale. » Fin de citation. La campagne officielle n'est pas encore lancée, mais pourtant on sent que les candidats ont hâte de sortir des starting blocks. Et c'est ainsi que se sont, gentiment, hein, taclés les trois têtes de liste d'Arras avec vous, du Printemps Arrageois et du Rassemblement pour Arras, Frédéric Le Turc, Antoine Détourné et Alban Euzel. On a pu assister également aux au revoir de ceux qui ne rempileront pas, mais pour qui tous, majorité comme opposition, s'accordent à saluer le travail. Claude Ferré, François-Xavier Mullart, Thierry Spa et Marilène Fatien. Le point principal à l'ordre du jour, c'était bien sûr le vote d'un budget pour 2026. Un budget présenté comme de continuité avec la poursuite des projets d'investissement, notamment la rénovation de l'abbaye Saint-Va, 7,3 millions, de l'hôtel de ville, 1,6 millions, ou encore de l'école Oscar Cléré, à 700 000 euros, ou la végétalisation de la cour de l'école Jean Jaurès, 134 000 euros. Un budget également présenté comme protecteur avec une poursuite du plan pouvoir d'achat, pas de hausse d'impôts en vue encore cette année, le maintien du soutien aux associations et une augmentation de la subvention au CCAS et à la Caisse des écoles de 9%. Enfin, un projet également présenté comme responsable avec une situation financière saine à la fin de l'année 2025 comme bilan, le maintien d'une haute qualité de service public, la programmation des investissements ajustés à la capacité financière de la ville et enfin une progression limitée des dépenses de fonctionnement. Vous pouvez retrouver toutes les délibérations, décisions et procès-verbaux des séances sur le site de la ville, rubrique vie municipale, puis les séances du conseil municipal. D'ailleurs, quand on fait une recherche à cet endroit, on trouve une date de séance prévue au 22 mars 2026. Peut-être un signe que la majorité en place est convaincue d'être réélue au premier tour. A noter que si vous avez la flemme de vous déplacer ou s'il y a trop de monde déjà dans la salle pour assister au conseil municipal, vous pouvez le suivre en direct sur la page Facebook de la ville d'Arras, nouveauté depuis le Covid. Bon, je dis la flemme, mais à vrai dire c'est plutôt une bonne chose pour les personnes aussi qui voudraient y assister mais qui auraient des difficultés à se déplacer ou qui ne souhaitent pas sortir trop tard le soir. Ah oui, car disons-le, c'est toujours un peu long. Le dernier conseil municipal a commencé à 18h pour finir aux alentours de 20h40. En même temps, quand on voit la taille de l'ordre du jour, fallait s'y préparer.
Et on retrouve Guy qui nous a préparé donc une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens avec pour thème l'abstention.
Ça sert à rien, tous les mêmes, c'est joué d'avance, etc., etc. Les raisons invoquées par les abstentionnistes sont nombreuses. Si nous n'oublions pas ceux qui votent sans voter et qui glissent dans l'urne un bulletin blanc ou nul, qu'en est-il donc de celles et ceux, beaucoup plus nombreux, qui ne votent pas ? Position politique, indécision ou encore je m'en foutisme, l'abstention questionne. Alors pour certains, la question ne se pose même pas. Aucun risque pour eux de se décider un dimanche d'élection d'aller faire un tour au bureau de vote. Les puristes ne sont tout simplement pas inscrits sur les listes électorales. L'INSEE en dénombre actuellement un peu plus de 2,5 millions, soit environ 5% de la population française en âge de voter, population estimée à 52,1 millions. Et puis, il y a celles et ceux qui pourraient aller voter, mais qui n'y vont pas. De l'abstention systématique à l'occasionnelle, en passant par celle relative à certains types d'élections, difficile de cerner le non-vote. Politistes et sociologues semblent toutefois s'accorder sur deux types d'abstentionnistes. D'un côté, ceux qui expriment ainsi une opposition à un format démocratique donné et ou une sanction à l'encontre des candidats et des partis en lice. De l'autre, ceux qui ne s'intéressent aucunement à la politique, qu'ils ne s'en sentent pas compétents ou qu'ils n'y voient aucun lien avec leur quotidien. L'abstention a aussi pour particularité d'être variable selon le type d'élection. Et c'est toujours au niveau présidentiel qu'elle est la plus faible, à croire que tout se joue là, et surtout pas au Parlement. Si l'on prend le premier tour des présidentielles de 2022, l'abstention était à 26,3%, et quelques semaines plus tard, au premier tour des législatives, elle était deux fois plus importante pour atteindre 52,5%. Des élections législatives où l'abstention a fortement augmenté entre les années 1960 et les années 2000 pour devenir donc majoritaire en 2017 et 2022. Paradoxalement, on a constaté une baisse significative de cette abstention aux législatives en 2024 avec un taux de 33%, élection qui faisait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, défiance envers le président ou inversement de tendance, l'avenir nous le dira. Autre variabilité qui peut surprendre, celle que l'on constate parfois entre deux tours d'une élection. Si au premier tour on choisit et au deuxième tour on élimine, tout en sachant que certains vous diront l'inverse, l'abstention, elle, reste un choix fluctuant. Exemple marquant à ce propos, les présidentielles de 2002. 28,4% d'abstention au premier tour, un taux record pour une présidentielle, et une des explications d'ailleurs de ce deuxième tour plus qu'inattendu qui opposait alors Chirac à Le Pen. Cette abstention baissera de plus de 8 points au deuxième tour. La volonté d'éliminer le candidat d'extrême droite est manifeste. La musique n'est plus la même aux deux dernières présidentielles où cette fois, malgré la présence d'une candidate d'extrême droite au deuxième tour, l'abstention a augmenté de 3 points entre le premier tour et le deuxième tour en 2017 et de près de 2 points en 2022. Une forme de banalisation de la présence du FN, aujourd'hui RN, dans la vie politique française. Les élections européennes, régionales et départementales, quant à elles, n'ont jamais attiré les foules, avec des taux d'abstention dépassant les 50% depuis plusieurs scrutins. Et je ne vous ai pas parlé des référendums, là tout est possible. On passe de 19,4% d'abstention le 29 septembre 1958, lors de l'instauration de la Constitution de la Ve République. On passe donc de ces 19,4% à 69,8% pour les référendums de 2000 instaurant le quinquennat présidentiel. A noter que le référendum de 2005, rejetant le traité de Rome II qui devait établir une constitution pour l'Europe, avait connu un niveau d'abstention plutôt bas de 30,7%. Mais ce même traité de Rome II est devenu, 2 ans plus tard, à peu de choses près, le traité de Lisbonne, ratifié, lui, sans être soumis à un référendum. Ce qui a sans doute contribué à l'augmentation de l'abstention en général, constatée depuis cette période, sous l'effet d'un ressenti de déni démocratique. Concernant les référendums et l'abstention, et pour mieux estimer cette dernière, j'attends un référendum qui poserait la question « Êtes-vous pour ou contre le vote obligatoire ?» Mais je crains qu'aucun politique n'y songe, ça pourrait lui coûter des voix et de l'abstention. Le vote est un droit et aussi un devoir civique, est-il rappelé sur nos cartes d'électeurs. Et s'il n'était effectivement pas obligatoire au sens juridique, une exception confirme la règle, les élections sénatoriales. Ces élections ne concernent que les grands électeurs, les députés, conseils municipaux, départementaux et régionaux, grands électeurs qui, depuis 2004, sont à l'amende de 100 € s'ils s'abstiennent. Alors des grands électeurs dont l'existence même a de quoi alimenter l'abstention de celles et ceux qui n'ont pas envie d'être considérés comme des petits électeurs. À propos du vote obligatoire, j'en profite pour placer une petite histoire belge. Et oui, chez nos voisins du Nord, le vote est obligatoire pour tout le monde. Mais l'abstention reste importante. En effet, les amendes pour non-vote ne sont pas effectives. Alors revenons à l'actualité et aux élections municipales, donc celles qui nous intéressent en ce moment. Élections locales par excellence, avec les élus les plus proches de leurs concitoyens. Si elles n'ont jamais atteint les niveaux records de participation des présidentielles, elles n'ont jamais connu d'abstention lourde avec des taux raisonnables, dirons-nous, évoluant de 25% dans les années 1960 à 30 voire 35% depuis les années 1990. Mais là aussi, une exception confirme la règle 2020. Souvenez-vous, 2020, c'est le Covid. Et au lendemain du premier tour des élections municipales, en mars, le président a annoncé le confinement. Et là, l'abstention a explosé. 55% au niveau national pour le premier tour et 58,6% d'abstention donc au deuxième tour qui aura lieu fin juin. À Arras, c'est encore plus marquant. L'abstention arrive largement en tête, 64% lors de ces élections, qui ont vu Frédéric Le Turc être réélu dès le premier tour avec une majorité confortable de 56,6% des suffrages exprimés. 16 690 abstentions, 9 020 votes exprimés, 5 104 voix pour Frédéric Le Turc, 3 670 de moins que lors de son élection en 2014. 5 104 voix qui représentent 10,6% des inscrits. Moins d'un électeur arageois sur 5 a voté pour le maire en exercice. La question de la légitimité de ces élections organisées dans un contexte peu enclin à effectuer son devoir civique interpelle. À ce titre, la participation au scrutin de cette année sera observée et si l'on peut présumer qu'elle soit plus importante, à quel niveau se situera-t-elle et quelle incidence aura-t-elle sur les résultats? Rendez-vous dans un mois. D'ici là, vous aurez peut-être envie de vous plonger dans les écrits d'Élisée Reclus, géographe libertaire, auteur en 1885 d'une célèbre lettre commençant par ces mots, je cite « Voter, c'est abdiquer ». Ou alors, relirez-vous « Élection, piège à con », le pamphlet écrit en 1973. Boris, écrit par qui ce pamphlet en 1973 ? Par...
Je suis en train de chercher le nom, mais je n'arrive pas à le retrouver.
Alors, Jean-Paul Sartre, s'il vous plaît. Sartre, bah oui. Voilà. Et peut-être enfin... Méditerez-vous sur cette citation de Coluche, « Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit ». Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en soit, et c'est appréciable, libre à chacun de s'abstenir ou de s'abstenir de s'abstenir.
Président, résident de la République, couleur rose à des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux.
Bien, merci Guy de Polarski, j'ai envie de prendre l'accent belge justement pour te dire qu'on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et on entame la dernière partie de notre magazine Élections, le dossier de la semaine. On arrive donc avec ce dossier et on va parler d'inclusion des personnes en situation de handicap, Nico.
Municipal 2026, sortons de l'indifférence. C'est l'appel lancé par le collectif Handicap, Handicap au pluriel, hein, une association qui regroupe une grande partie des assos nationales représentatives des personnes en situation de handicap, des familles et de leurs proches. Alors je cite, pour que les besoins des 12 millions de personnes en situation de handicap et 11 millions d'aidants ne restent pas une préoccupation marginale pour les 5 années à venir, le collectif Handicap publie son manifeste pour une politique municipale et intercommunale inclusive. Alors je cite toujours, alors que les communes et intercommunalités sont le premier lieu d'exercice des droits, le handicap est encore traité comme une contrainte technique ou budgétaire, rarement comme une priorité politique transversale.
Et qu'est-ce qu'on y trouve donc dans ce manifeste ?
Eh bien, des propositions d'engagement qui prennent en compte la diversité des handicaps, la diversité des besoins, la diversité de réponses. Je vous cite quelques-uns des 10 engagements. Construire une école inclusive, garantir la participation des personnes handicapées à la vie sociale, culturelle, sportive et associative du territoire, promouvoir la participation effective des personnes handicapées à la vie démocratique et citoyenne locale.
Et à Arras, comment ça se passe niveau inclusion ?
Bah c'est la question qu'on a posée à plusieurs assos qui travaillent sur ces questions. On écoute d'abord Florent Arduin et Bastien de Renoncourt, adhérents de l'APF France Handicap, que Boris, tu as rencontré mercredi à Canopé.
M'a déjà amélioré l'accessibilité, amélioré la mobilité dans les transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Handicap moteur ou de tout type de handicap.
Je pense que tout a vocation à être amélioré, mais notamment le premier volet, ce serait l'accessibilité. Voilà, l'accessibilité des transports en commun, l'accessibilité de la voirie notamment, parce que vous en parliez, j'ai entendu ça. Aussi, voilà, tout ce qui concerne l'accès aux droits, voilà, certains financements. On l'a récemment, il y a quand même eu une belle avancée, quelque chose pour lequel on a milité, donc le remboursement des fauteuils roulants, mais il y a d'autres volets, l'accès au logement, l'accès à divers droits. En termes d'inclusion dans le monde du travail, je suis moi-même concerné parce que je suis en pleine reconversion professionnelle. Il y a quand même une belle évolution depuis plusieurs années sur l'accompagnement, justement. C'est l'une des missions, l'une des vocations de l'APF France Handicap. Mais il y a une réelle évolution, mais je pense que les choses peuvent encore évoluer positif et une réelle évolution des lois qui vont dans ce sens, en tout cas, je l'espère.
On écoute maintenant Céline Jumel de l'association Les Ailes du TDAH 10 & Co., donc une asso qui aide des personnes concernées par le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle était au micro de Laura.
Alors on va dire que la ville, sur le mandat qui a été fait avec Monsieur Le Turc, hein, c'est un maire qui est très tourné sur l'inclusion. Nous, on aimerait plus d'inclusion pour les troubles du neurodéveloppement qui restent du handicap invisible. Voilà, faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le handicap invisible représente 80% des handicaps. Je pense qu'il y a encore du travail à faire sur le volet troubles du neurodéveloppement. On a quand même entre 2 et 5 enfants par classe atteints de troubles du neurodéveloppement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable action à faire au vu de la recrudescence des adhérents sur ces 3 dernières années. On a quand même doublé en l'espace d'un an, doublé en termes de familles adhérentes. En l'espace d'un an, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire sur la commune. Et j'espère que pour le prochain mandat et le prochain maire qui sera élu, bien évidemment, on sera entendu et qu'on pourra se rencontrer et échanger sur la question. Nous, on a des propositions à leur faire, voilà. Donc, on les attend.
Bah, je trouve qu'il y a un engouement actuellement, que ça prend forme. Nous avons déjà participé justement avec la ville d'Arras à la Cluton qui était organisée cette année courant juin. Et il y a plus en plus, moi je rencontre des maires, je rencontre différentes personnes qui ont envie de pouvoir développer ça, de vraiment sensibiliser sur tout ce qui est handicap en général, pas uniquement les handicaps invisibles. Et il y a un travail qui se met en route, et je trouve que voilà, il y a un engouement et ça avance, bon, petit pas, mais ça avance.
À l'instant, c'était John Barley de l'association Regard Invisible qui travaille donc sur les handicaps invisibles, joint par téléphone en octobre dernier. Alors, il a évoqué dans l'interview l'Incluton, cet événement autour de l'inclusion organisé à Arras depuis 2023. Il y a des choses qui ont été faites à Arras par la majorité sortante, c'est indéniable. Le symbole, c'est Éléonore Laloux, première conseillère municipale trisomique de France. Il y a aussi la salle de change, les feux tricolores à décompte, les plaques de rue inclusives. Mais selon la liste de gauche Le Printemps Arrageois menée par Antoine Détourné, la situation sur Arras évolue bien trop lentement. Dans des messages type un jour une proposition qui a été postée par cette liste fin décembre, la liste qui vise à concurrencer le maire actuel Frédéric Le Turc, cette liste donc propose de nommer un ou une élue chargée de l'accessibilité universelle, donc cette personne qui serait référente auprès de chacun des membres du conseil municipal. Et puis cette liste avance aussi l'idée d'un comité de représentants des habitants qui sont limités dans leur accès aux droits, un comité qui serait chargé de construire avec les élus et les services municipaux les politiques en faveur de l'égalité des droits et des usages.
Et quid des autres listes en lice ?
Pas grand-chose. Hein. Bon, alors, tous les programmes n'ont pas encore été communiqués, mais par exemple, dans la liste Arras à gauche, dans le programme, il est juste question d'accessibilité, d'inclusion, de développement du handisport, mais pas vraiment de propositions.
Et pourquoi si peu, à ton avis ?
L'inclusion, c'est un sujet transversal politiquement aussi, donc ça ne correspond pas forcément à un clivage gauche-droite marqué. Et peut-être que certains considèrent que ça va être difficile d'attaquer Frédéric Le Turc sur ce sujet. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faudrait critiquer la manière dont Éléonore Laloux est mise en avant par la municipalité en place. Et là, c'est un peu délicat et un peu risqué pour les listes d'opposition, je pense.
Bon, en tout cas, espérons que l'inclusion se fera à sa place au cœur de cette campagne et que ça fasse avancer les mentalités, les pratiques, les aménagements. Et puis, on rappelle aux auditrices et auditeurs que si vous souhaitez réagir à ce que vous entendez à cette antenne, vous pouvez nous contacter au 03 21 50 99 99 ou par mail pfm@radiopfm.com. C'est la fin de ce magazine Élections, 9e numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier et suivre l'actualité de la campagne et une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens. Salut.
Salut.
Salut. Salut.